a parlé déjà de quelques versets, mais c'est peut-être bon de relire le chapitre, ou relire ces versets et puis lire le restant. L'Épître aux Hébreux, premier chapitre. Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Et encore, « Moi je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. » Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. » Et quant aux anges, il dit « Qui fait ces anges des esprits et ses ministres une flamme de feu ? Mais quant au fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Et ils vieilliront tout comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement. Ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes ans ne cesseront point. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marcher de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Donc on a parlé ensemble déjà de l'introduction et on a parlé assez longtemps de l'introduction. Ensuite on a parlé de ces sept points concernant la personne bénie de notre Seigneur Jésus et concernant son œuvre, soit de créateur, soit de la rédemption. Et on a vu que dans cet épître, l'exercice est de présenter la splendeur de sa personne, son excellence, sa suprématie, pour qu'il soit présenté comme un sujet, comme un objet attirant pour nous attirer. Nous avons vu ces sept points et maintenant ce soir on a sept autres points. Et je voulais donner d'abord les grandes lignes. C'est remarquable qu'il y a sept citations de l'Ancien Testament que nous avons lues ensemble. Six concernant Christ, une citation concernant les anges. J'aimerais d'abord donner ces sept points et ensuite on parlera de quelques détails. Ce que l'auteur, on a vu, c'est Paul, mais ce que l'auteur mentionne dans ces versets qu'on a vus, versets 4 jusqu'à la fin du chapitre, son exercice est de montrer que le Seigneur Jésus est plus haut que les anges, plus haut que les anges. C'est le premier point au verset 4. Ensuite, nous verrons au verset 7 que son trône, donc le trône du Seigneur Jésus, est au-dessus de tous les autres trônes. Le mot au-dessus, c'est comme un mot clé. Il est plus haut et au-dessus. C'est un mot clé pour cette épître. Au-dessus des anges, au-dessus de tous les autres trônes. Au verset 9, il est au-dessus de ses compagnons. On va voir tantôt. C'est qui les compagnons? Ses compagnons. Mais il est au-dessus de ses compagnons. Au verset 10 à 12, nous verrons que le Seigneur Jésus, qui est le Créateur, comme nous avons vu la dernière fois, est quand même au-dessus de cette création-là. Et donc, lorsque la première création va disparaître, il va demeurer, parce qu'il est au-dessus de la création. Au verset 12, nous avons le cinquième point. Il est au-dessus le temps, au-dessus du temps, au-dessus du temps. Ça va ensemble avec l'autre pensée, évidemment. Et là, par rapport à cette pensée-là, il est adressé comme étant le même. C'est le nom de Dieu. Dieu est appelé le même. Et le humble Jésus de Nazareth, il est le même. C'est le nom de Dieu. Et dans Hébreux 13, verset 8, nous voyons Jésus-Christ est le même. C'est son nom. Il est le même. Donc, même comme homme, Jésus-Christ, il reste le même, mais il reste aussi le même, ce nom de l'Éternel. Le sixième point, il est au-dessus des ennemis, verset 13. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marche-pied. Donc, il est au-dessus. De nouveau, ce mot-clé. Au-dessus, plus haut que les ennemis. Verset 14. Encore une fois, il est au-dessus des anges. Donc c'est sept points qu'on va discuter un peu ce soir. Un autre mot-clé dans cet épître, c'est le mot « plus excellent » au verset 4. « Plus excellent » ou « meilleur ». On pourrait traduire « meilleur ». Ce mot revient souvent. Et dans la lecture de cet épître, c'est toujours beau, toujours bon de se rappeler que c'est un mot-clé qui va nous guider pour montrer un contraste entre le système judaïque, on en a parlé la dernière fois, et maintenant ce nouveau système que le Seigneur Jésus a introduit. Il y a un contraste. Et ce contraste est marqué par le mot meilleur ou plus excellent. Ici, le contraste n'est pas avec le système judaïque nécessairement, mais indirectement oui, parce que les Juifs avaient reçu la loi par la transmise des anges. Galates 3 le montre, que la loi a été donnée par des anges, et aussi Étienne dans Actes 7 mentionne le service des anges. Donc les anges avaient un service très élevé par rapport au système judaïque. Mais la personne qui est présentée ici était au-dessus de ces anges. C'était important pour les juifs chrétiens à ce moment-là de réaliser cela. Mais c'est important pour nous aussi. Et on verra plus tard dans cet épître, le Seigneur Jésus est plus haut que Moïse, plus haut que Aaron, plus haut que David, plus haut que Salomon, plus haut que Lévi. Il y a beaucoup de comparaison dans cette épître qui nous montre ce contraste et que le Seigneur Jésus est plus excellent, plus élevé, au-dessus de tous. Et il est dit aussi pourquoi il a hérité le nom plus excellent qu'eux. Ici nous avons le nom. Et si vous voulez étudier les Écritures qui nous parlent du nom du Seigneur Jésus, vous seriez impressionné. Son nom, à la naissance, exprime déjà la pensée qu'il est Jéhovah, l'Éternel sauve Jésus. Et en même temps, il est appelé Emmanuel, parce que Dieu est avec nous. Il est Dieu lui-même. Vous verrez, je donne juste quelques exemples. Dans Philippiens 1, le même mot excellent est utilisé, meilleur, lorsque Paul parle de son désir d'être avec Christ, qui est beaucoup meilleur. Mais dans cette même épître, il parle dans le deuxième chapitre que ce nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tout nom. Ça m'a frappé, je voulais juste mentionner quelques points, ça m'a frappé. dans Jean 3, verset 31, le Seigneur est au-dessus de tous. Dans Acte 26, lorsque Paul donne un résumé de sa rencontre avec le Seigneur dans la gloire, il parle d'une lumière qui était au-dessus de la splendeur du soleil. Cette lumière nous parle du Seigneur Jésus. Il est au-dessus de la splendeur du soleil. Dans Éphésiens 1, nous vous avons 7 points à la fin du chapitre, qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, etc. Il y a 7 points qui sont mentionnés là. Le Seigneur est au-dessus. Dans Éphésiens 4, il est au-dessus de tous les cieux, pas seulement au-dessus des cieux, mais au-dessus de tous les cieux. Dans Philippiens 2, il est dit, il est au-dessus de tout nom. De tout nom. Ici, on a lu dans chapitre 1, verset 9, il est aussi au-dessus de ses compagnons. On parlera de cela. Et un peu plus loin de Hébreux 7, nous voyons, il est plus haut que les cieux. Donc, tous ces versets soulignent la grandeur du Seigneur Jésus. Il est au-dessus de tout. On a vu déjà au verset 2 que Dieu a établi, que Dieu avait établi Christ comme héritier avant qu'il crée le monde. Et ici, nous voyons que le Seigneur Jésus a hérité d'un nom plus excellent que lui. Ici, je pense aussi, on voit son humanité. On ne peut pas séparer l'aspect de la déité, de l'humanité du Seigneur Jésus, parce que c'est la même personne. Mais peut-être on voit ici l'emphase sur l'humanité. Et c'est beau de souligner cela, le Seigneur Jésus a hérité quelque chose. Mais au verset 14, nous voyons les croyants aujourd'hui. On parlera du service des anges, mais ensuite il est dit au verset 14, en faveur des anges, donc servent les croyants, qui vont hériter du salut. Donc, nous aussi, on va hériter quelque chose. Le salut, donc, dans son aspect futur. On a déjà le salut de nos âmes, 1 Pierre 2, mais ici, c'est un aspect futur. Et dans ce sens-là, nous allons hériter. La pensée que nous, comme croyants, allons hériter, c'est une pensée qui revient souvent. Dans Apocalypse 21, c'est les vainqueurs qui vont hériter. Donc, on pourrait se poser cette question-là, est-ce que je suis vraiment un vainqueur? Pour Dieu, il faut être un vainqueur pour pouvoir hériter. D'autres passages nous montrent que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. C'est impossible. 1 Corinthiens 15, Galates 5, ça nous montre que cet héritage que Dieu veut nous donner n'a rien à faire avec quoi que ce soit de la chair ou de ce que l'homme puisse produire. Mais on a donc quelque chose en commun avec le Seigneur Jésus, ça c'est mon point. Il va hériter d'un nom plus excellent que les anges, et nous, on va hériter le salut. Un autre point que je voulais souligner ici, c'est donc la pensée du nom. J'ai parlé déjà du nom, et au-dessus de tout nom. Et ce nom représente sa personne. Ça représente ce qu'il est en lui-même. Ça représente son autorité. Et dans Jean 20, par exemple, pour donner un exemple, ce nom est tout suffisant. C'est un autre aspect de ce nom. C'est un nom tout suffisant. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie. Donc, le nom représente sa personne. C'est par rapport au salut, pour accepter le salut. C'est par rapport aussi de cette jouissance de la vie éternelle, comme Jean 20 le montre. C'est tout par lui. On n'a rien aujourd'hui, bien aimé. Toutes nos bénédictions que nous avons, on ne peut rien détacher de la personne du Seigneur Jésus. On a tous, par rapport à lui, par rapport à son nom, qui est plus excellent que quel autre nom que ce soit. Si on étudie cela, on verra que le nom du Seigneur Jésus est la base pour le rassemblement, Matthieu 18, 1 Corinthiens 1, verset 2. Et on verra aussi que ce nom est important pour un jour de lumière, dans 2 Timothée 2, verset 19. C'est ce nom-là. Donc, vous pouvez étudier cela en détail, mais ça nous montre que le nom est la base, le nom du Seigneur Jésus est la base de tout. Dans Acte 4, Pierre l'a dit déjà, le salut est en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom par lequel il nous faille être sauvés. Donc, la puissance qui est attachée à ce nom, c'est parce que ce nom appartient au Seigneur Jésus. C'est lui qui a cette puissance pour donner la vie. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le centre du rassemblement, etc. Ça m'a frappé de voir dans le livre de Malachie, peut-être vous avez lu le dernier livre de l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel, ou mon nom, ou son nom, est mentionné 10 fois. 10 fois. Et là, le peuple avait méprisé son nom. Aujourd'hui, si on lit un tel verset, que le Seigneur Jésus a hérité d'un nom plus excellent que les anges, est-ce que nous apprécions ce nom? Est-ce que nous sommes indifférents, comme les gens dans le temps de Malachie, ou est-ce que ça nous touche? Est-ce que nous sommes heureux que le Seigneur Jésus a ce nom, parce qu'il est mon Seigneur? Quel nom merveilleux il a. On chante quelquefois de ce nom. Et vous pourriez étudier aussi le livre d'Apocalypse pour le nom. Le nom qui est tellement merveilleux, en contraste avec le nom que les gens vont porter pendant la grande tribulation pour suivre l'Antéchrist. Le nom des vainqueurs est lié à ce nom du Seigneur Jésus. En tout cas, c'est un sujet important pour toutes les dispensations, mais surtout pour nous aujourd'hui. Verset 5. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils ?» Donc il donne ici son premier argument. Il va montrer maintenant pourquoi le Seigneur Jésus est plus élevé que les anges. Il va le montrer. Il a dit déjà au verset 4 qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les anges. Mais maintenant, il va montrer pourquoi le Seigneur Jésus est plus élevé que les anges. Et il pose cette question-là. Est-ce auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils ?» Donc, il n'y a pas d'ange auquel Dieu a dit « Tu es mon fils ?» Moi, je t'ai aussi engendré. Chaque ange a été créé par Dieu. Mais il n'y a aucun ange auquel Dieu a dit « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Donc ici, c'est une référence à l'incarnation. On voit ici le Seigneur Jésus. On parlait de cela la dernière fois un peu. L'humble bébé dans la crèche. C'était la première fois que les anges ont vu leur Créateur. Lorsqu'il était comme petit bébé dans la crèche. 1 Timothée 3 le dit au verset 16 que là les anges ont vu leur Créateur. C'est bien clair qu'il est au-dessus des anges parce qu'il est leur Créateur. Donc le point ici, c'est que cette personne qui est présentée ici est appelée mon fils. Mais là vous direz peut-être oui, mais c'est le Seigneur Jésus comme homme, lorsqu'il est né, lorsque l'ange a annoncé à Marie, l'ange Gabriel, dans Luc 1, a annoncé que le Seigneur Jésus serait né, il serait grand, il aurait le royaume de son père David, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, il est le Fils qui est dans le sein du Père. C'est un mystère. Mais je pense, l'auteur donne ici son premier argument pour montrer que le Seigneur Jésus est au-dessus des anges. Donc même lorsqu'on voit le Seigneur Jésus dans la crèche comme un petit bébé, il était en même temps au-dessus des anges. C'est un mystère, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il était le créateur des anges. Dans l'ordre de la création, les êtres humains sont au-dessous des anges. Mais lorsque le créateur entre dans sa création, Colossiens 1 l'explique aussi, il faut qu'il soit le premier. Et ainsi, même comme homme, appelé fils de Dieu, même comme homme, fils de Dieu, il était au-dessus des anges. Donc, pour comprendre ce point-là, il fallait presque lire Jean 1, Colossiens 1, et pour vraiment saisir cela, ensemble avec Luc 1, l'annonce de l'ange. Donc ici, nous avons le mystère de l'incarnation. Ensuite, on a une deuxième citation. Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. Il y avait donc une relation entre Dieu et ce fils qui était né. Le fils de David, il est le fils de Dieu. C'est une relation précieuse. Et pas seulement le fils de David, c'est donc Salomon. Et Salomon, le prince de la paix pacifique, est appelé aussi Zedekiah, aîné de Jéhovah. Et ainsi, il y avait une relation intime entre le fils de David et Dieu. Mais Salomon, Zedekiah, était donc une image du Seigneur Jésus comme homme sur la terre. Et ainsi, le Seigneur Jésus a joui de la communion avec son Père. Donc on pourrait dire, verset 5, c'est sa naissance. Dans sa naissance, au-dessus des anges. Le verset 5 au début. Le verset 5 à la fin nous parle de la vie du Seigneur Jésus. Sa communion avec Dieu. Dieu était son Père. Il avait la communion avec Dieu. Vous voyez l'ordre? D'abord la naissance, ensuite la marche du Seigneur Jésus, et dans sa marche, il a joui de cette relation avec Dieu comme étant son Père. Au verset 6, on va encore un pas plus loin, et encore quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Je suggère que dans le temps, on va ici plus loin, on va jusqu'au millénium, lorsque le Seigneur Jésus va revenir pour régner. Mais en principe, c'est vrai aussi par rapport à la naissance. Dieu a introduit le premier-né dans le monde habité. Et là, tous les anges l'ont adoré. On peut voir cela dans Luc 2. Tous les anges ont loué Dieu par rapport à la naissance du Seigneur Jésus. Les anges ont vu lorsque Dieu a ouvert le ciel 30 ans plus tard. Mais je pense ici, c'est aussi une référence au début du millénium, lorsque Dieu va introduire publiquement son premier-né dans le monde habité. Que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Ici, son règne commence. Donc vous voyez aussi l'ordre chronologique, la naissance du Seigneur, sa marche sur la terre. Ici, son retour, Dieu va l'introduire. Et pour finir cette pensée-là, au verset 8, c'est vraiment le trône dans le temps du millénium. Et au verset 11, on verra l'état éternel. Lorsque la première création va disparaître, et j'ai dit tantôt, le Seigneur, il demeure, il est au-dessus de la première création, il est au-dessus du temps, il demeure. Voilà, c'est l'introduction de l'état éternel. Donc, juste pour suivre cette ligne chronologique. Maintenant, je veux revenir à une expression au verset 6. Et encore quand il introduit le premier-né. C'est beau de voir cela. Bien-aimé, il y a dans cet épître l'emphase sur le Seigneur Jésus. En même temps, tout le temps, il y a un lien avec les croyants. Si le Seigneur Jésus est fils, on a vu cela la dernière fois, il est le fils. Dans cet épître, on verra que nous, les compagnons du verset 9, sont des fils. Si nous voyons ici le Seigneur Jésus comme le premier-né, ça veut dire qu'il a une relation avec d'autres et nous appartenons à cette race de laquelle il est le premier-né. Il est le premier d'entre beaucoup de frères. Il est le premier-né de la création, évidemment, on parlait de cela dans Colossiens 1. Il est le premier-né de la résurrection. Aussi dans Colossiens 1, et ainsi donc le premier-né de la nouvelle création. Il est aussi le premier-né de beaucoup de fils, Romains 8, et entre beaucoup de frères, Hébreux 2, et il est le premier-né des morts, Apocalypse 1. Donc le Seigneur Jésus est cinq fois le premier-né. Et là, c'est toujours par rapport à son humanité. On ne peut pas détacher l'humanité de sa divinité, je l'ai dit, c'est la même personne, mais lorsque la Bible parle de lui comme étant le premier-né, l'emphase est sur son humanité. Et ainsi, il est le premier-né d'une nouvelle race. Et nous appartenons à cette race. Mais lui, il est le premier-né. Et c'est beau de voir l'équilibre de l'écriture, parce que cinq fois, il est appelé le Fils unique. Jean 3 et d'autres places, cinq fois il est appelé le Fils unique. Et ça c'est pour mettre l'emphase sur lui comme le Fils éternel. Il est le Fils éternel dans le ciel du Père. En même temps, il est vu ici comme homme le premier-né. Il a toujours la première place. Comme homme, le premier-né, en même temps il est Dieu béni, il est le Fils unique. Un mystère béni. Mais on peut se réjouir dans le Seigneur Jésus, en voyant sa grandeur. Et lorsqu'on étudie ce passage qu'il est le Fils unique, on peut dire, c'est mon Seigneur. On se réjouit parce que c'est mon Seigneur. Au verset 6, je pense qu'il y avait encore une pensée. Oui, la pensée que Dieu introduit. Comme Dieu a introduit un nouveau roi, David, 1 Samuel 16, Dieu aime introduire cet ordre nouveau. On voit dans cette histoire de David, Dieu a introduit un nouveau roi, qui représentait un nouvel ordre de choses. Et ainsi, Dieu aime introduire ici le premier-né qui représente un nouvel ordre de choses. Et ainsi, Dieu aime introduire ce nouvel ordre de choses. Si vous faites attention, vous allez voir cela souvent. L'autre expression que j'aimerais souligner, c'est le monde habité. Le monde habité, ce mot est utilisé par exemple dans Luc 2, lorsque le Seigneur Jésus est dit, l'empereur romain avait donné des ordres, un décret, pour que les juifs soient inscrits dans leur lieu où leur ancêtre était. Et ainsi, Joseph a déménagé où est allé à Bethléem pour être inscrit. Et là, le même mot, le monde habité, est utilisé. Là, c'est sous le contrôle de l'empereur romain. Mais si on lit bien, là, on voit que Dieu est en contrôle. Mais ici, le monde habité, ce sera le monde du millénium où Dieu est publiquement en contrôle. Dans Luc 2, Dieu est en contrôle derrière les coulisses, pour ainsi dire. Mais ici, le début du millénium, Dieu sera en contrôle de ce monde habité, de ce monde où le Seigneur Jésus sera introduit. C'est un mot intéressant parce que ce mot « monde habité » dans l'original fait penser à une maison. Une maison. Ainsi, toute la création sera comme une maison pour Dieu. Une pensée qu'on trouvera plus tard dans ce chapitre. Maintenant, le verset 7. On a la quatrième citation, la troisième, on a vu au verset 6, que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Maintenant, au verset 7, on a la quatrième citation. qui fait ces anges des esprits et ces ministres une flamme de feu. Donc Dieu fait ces anges des esprits. Et puis, cela est dit, c'est une citation que Paul présente pour donner un contraste au verset 8. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. Il faut comprendre cela, verset 7. Les anges ont été faits des esprits. Mais est-ce que Dieu a fait le Fils dans ce sens-là? Non. Il est Dieu béni. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Et on voit cela, ton trône, ô Dieu, il est Dieu. Donc, il est au-dessus des anges. Il n'est pas fait comme des anges, comme des esprits ou comme une flamme de feu. Il est Dieu lui-même. On a vu au verset 5, car auquel des anges a-t-il jamais dit tu es mon fils? Là, on a pensé au Seigneur Jésus dans la crèche, donc son humanité. Quand même, il est mon fils. Mais ici, nous voyons la même personne, au verset 8, il est le Fils, donc ça implique aussi le Fils éternel. Ton trône, ô Dieu, il est Dieu lui-même, demeure au siècle des siècles. Et c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Voilà, on voit le règne millénaire avec sa droiture. Ce mot droiture revient souvent dans les psaumes. Et c'est un mot qui nous parle aussi du caractère d'honnêteté du Seigneur Jésus, de son règne, que tout était vraiment honnête. Et ainsi, le sceptre de son règne sera marqué par cette honnêteté, par cette droiture. Et le premier point est que son trône, comme j'ai dit tantôt, est donc au-dessus de tous les autres trônes parce qu'il est Dieu lui-même. Et au verset 9, tu as aimé la justice. On a sa vie, il a aimé la justice. Quel contraste avec le premier Adam. Il a préféré se faire séduire par sa femme. Sa femme s'est fait séduire par le serpent. Ils n'ont pas aimé la justice. Mais le Seigneur Jésus était motivé par cet amour. Il a aimé la justice. Jusqu'à quel point? Pour se donner comme sacrifice. Ainsi, le Seigneur Jésus a aimé la justice. Il était prêt de donner un sacrifice pour être fait péché. 2 Corinthiens 5. Afin que nous devinssions justice de Dieu. En lui. Quel amour, quel dévouement. Et ainsi, il a haï l'iniquité. Donc, ce mot veut dire ce qui est sans loi. Et ce mot est vraiment caractéristique pour notre temps. Paul parle déjà du mystère de l'iniquité dans 2 Thessaloniciens 2. Ça marque nos jours. Mais le Seigneur Jésus a haï l'iniquité. Donc nous devons être marqués par cela aussi, qu'on ne veut pas faire des compromis avec l'iniquité. Nous vivons dans un temps où le mystère de l'iniquité est là au milieu de la chrétienté. 2 Thessaloniciens 2 et d'autres passages nous montrent. Mais nous devons suivre l'exemple du Seigneur Jésus qui a haï l'iniquité. Il y a plusieurs pensées au verset 7 que j'ai oublié tantôt. On va revenir à ça, que les anges sont des ministres, mais le Seigneur Jésus, il a son trône, il est roi. Et c'est beau de voir que le mot sceptre, c'est le même mot qui est utilisé par exemple pour le bâton du berger. Donc Jacob avait son bâton dans Genèse et Moïse avait son bâton. C'est le même mot dans le grec, pour sceptre. C'est beau de voir ça. Donc ça veut dire que Jacob et Moïse avaient appris déjà de ces principes. Il était en accord avec le sceptre de droiture. Et ainsi, nous devons aujourd'hui nous exercer pour être moralement en accord avec ce sceptre. Une autre expression que j'aimerais souligner au verset 9, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Donc là, le verset 9 continue la pensée que le Saint Jésus, son trône, il est au-dessus de tout, il est Dieu. Mais maintenant, verset 9 cite le psaume 45 aussi pour dire Dieu, ton Dieu. Donc là, nous voyons déjà. Il y a une distinction dans la déité. C'était encore caché dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, la Trinité s'est révélée. Et ici, le langage de l'Ancien Testament donne de la place déjà pour la vérité de la Trinité qui était en soi cachée dans l'Ancien Testament. Et le point que j'aimerais souligner, c'est que Dieu a oint le Seigneur Jésus. Il t'a oint d'une huile de joie. Cette référence, ce n'est pas à l'occasion dans les évangiles où nous voyons que l'Esprit est descendu pour être sur le Seigneur Jésus. Et dans Acte 10, nous voyons que Pierre dit que le Seigneur Jésus a été oint. Donc le moment où l'Esprit Saint est descendu comme une colombe et resté sur sa tête, à ce moment-là, Dieu a oint le Seigneur Jésus. C'est la première fois. Mais lorsque le Seigneur Jésus avait accompli son œuvre, lorsqu'il est sorti du tombeau et 40 jours plus tard, Dieu l'a exalté, il est monté dans le ciel, on a vu cela la dernière fois, verset 3, il s'est assis à la droite de la majesté. À ce moment-là, Dieu l'a oint à nouveau dans la gloire. Et cette onction, par la grâce de Dieu, nous partageons, pour ainsi dire, cette onction. Parce que c'est l'Esprit Saint qui ensuite est descendu du ciel. Et nous sommes donc vus, les croyants sont vus comme des compagnons du Seigneur Jésus. Littéralement, on pourrait penser aux disciples qui étaient des compagnons du Seigneur Jésus au début, comme les deux disciples qui quittaient Jean le baptiseur, ils ont commencé à suivre le Seigneur Jésus dans Jean 1. Ils sont devenus ses compagnons, plus ou moins. Et plus tard, les autres croyants à ce moment-là aussi, on voit dans les actes plus tard, ils étaient ses compagnons, ils se sont identifiés avec lui. Mais aujourd'hui, c'est notre privilège d'être identifiés avec le Seigneur Jésus. Comme les restes fidèles dans les jours à venir, ils seront aussi ses compagnons. Et le Seigneur Jésus, il apprécie d'avoir des compagnons dans le temps où il est rejeté sur la terre. Donc ça c'est notre privilège d'être des compagnons qui ont la même part avec lui. Quand même, il y a une grande différence. Parce qu'il est au-dessus. C'est toujours comme ça. Si le Seigneur Jésus est le Fils, nous des fils, il est au-dessus de nous. On verra plus tard, le Seigneur Jésus est le grand sacrificateur au-dessus de nous, évidemment. Mais nous sommes aussi des sacrificateurs. Et ici, nous voyons des croyants comme des compagnons. Et bien évident, bien clair, il est au-dessus de ses compagnons. Le mot compagnon implique la pensée d'avoir une même part. Et cette pensée revient au chapitre 3, c'est très beau de voir ça. C'est pourquoi frère saint participant. C'est la même pensée, participant à l'appel céleste. au verset 14, nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. Et nous verrons, Dieu voulant, au chapitre 2, sept liens entre Christ et nous. Donc il y a un lien, des liens intimes entre Christ et nous. Et de plusieurs façons, Dieu a établi ce lien. Donc, la pensée que nous sommes des compagnons revient plusieurs fois dans cet épître. Quel privilège! Mais il faut toujours penser qu'il est au-dessus de tous. Au verset 10 maintenant, l'autre citation, « Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. » Donc, ici, nous voyons le Seigneur Jésus comme le Créateur, qui a créé tout, qui a fondé la terre, et maintenant, il est dit que ses œuvres vont périr. Mais, en contraste, tu demeures. C'est pour souligner de nouveau donc sa grandeur. Et comme j'ai dit au début, ça nous montre que le Seigneur Jésus est au-dessus de la première création. Et verset 11 va un peu plus loin. Ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés, mais toi, tu es le même. Là, on doit arrêter un moment. Ici, Paul donne son troisième argument. Comme humble bébé dans la crèche, il est quand même le Fils au-dessus des anges. Ici, dans le contexte du monde millénaire, son trône au-dessus de tous les autres trônes, il est Dieu lui-même, et Dieu l'a loin. Mais ici, il va encore un pas plus loin. Ici, il montre que le Messie rejeté, si vous lisez le psaume 102, vous voyez le rejet total du Messie dans les premiers versets. Et que Dieu l'a rejeté aussi. Mais le peuple l'avait rejeté, mais Dieu l'a rejeté dans un sens. En même temps, ce verset, c'est donc une citation de ce psaume-là, montre que malgré cette réjection, il est le même. Ça veut dire, il est l'Éternel lui-même. C'est pour ça que j'ai dit il est au-dessus du temps, parce qu'il est l'Éternel lui-même. C'est là l'argument du psaume 102 qu'on ne pourrait pas comprendre sans la lumière de Hébreux 1. Parce que Hébreux 1 nous montre maintenant clairement que cette personne qui parle dans le psaume, qui est l'Éternel lui-même, qui est rejeté, il est l'Éternel. Il est le même, parce que le même, c'est un nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce nom revient plusieurs fois. Et c'est tellement beau de voir que le Messie est rejeté. Et puis ça, c'est un encouragement pour les Juifs chrétiens qui étaient là à Jérusalem lorsqu'il avait reçu sa lettre. Ils étaient méprisés par leurs compatriotes, par les autres Juifs, parce qu'ils s'identifier avec le Messie rejeté, le Messie crucifié. Les autres Juifs ne savaient pas que le Seigneur Jésus était ressuscité et maintenant couronné de gloire et d'honneur. Mais les croyants, ils devraient réaliser que ce Messie rejeté et crucifié, il est l'Éternel lui-même. Et ce verset nous montre ça. Et ce verset nous montre donc, si on prend le nom, le même, si on comprend cela, le même, il ne change pas, il est au-dessus du temps. Il était là avant la création, il est là après la première création. Il est toujours là. Et c'est lui qui est présenté ici, le même. Tes anges ne cesseront pas. Et ce verset, ça vient d'un verset, on voit dans le psaume 102, il est mis de côté, il semble que c'est tout pour rien, pourtant, tu es le même, tes anges ne cesseront pas. Il est mort au milieu de ses amis, 33 ans à peu près, et ensuite il est dit, tes âmes ne cesseront pas.
Pourquoi?
Parce qu'il est Dieu lui-même. Il est le même. Ensuite, au verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marche-pied de tes pieds. J'ai dit déjà au début, ici, c'est pour montrer que le Seigneur Jésus est au-dessus des ennemis. Mais un point que j'aimerais souligner maintenant, c'est qu'il est à la droite de Dieu. On a vu cela déjà dans le verset 3, la dernière fois. Il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux. Parce qu'il est Dieu béni. Il est lui-même capable de monter au ciel et de s'asseoir à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Mais ici, l'emphase est sur un autre côté, que cet homme rejeté sur la terre et crucifié, que Dieu a rejeté, que cet homme reçoit une place d'honneur et que Dieu peut dire « Assieds-toi à ma droite ». Ici, nous voyons donc un autre côté de la médaille. Ici, l'emphase est sur l'humanité du Seigneur Jésus. Et Dieu lui dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marcher de tes pieds. » Ainsi, le Seigneur Jésus est dans le trône du Père, comme Apocalypse 3 l'explique, dans l'épître à Laodicée. Il n'est pas encore sur son trône, du règne millénaire. Il reste encore dans le trône du Père jusqu'à ce que tous les ennemis soient mis comme marche-pied de pied. Et là, il va être assis sur son trône, comme on a vu tantôt. Ton trône demeure au siècle des siècles. Dans ce sens-là, c'est encore futur. Et on voit cela, par exemple, dans Zacharie 6, verset 13, la branche, le Seigneur Jésus est sacrificateur et roi en même temps sur son trône. Ça, c'est l'image millénaire. Mais le moment n'est pas encore venu. Ici, il est à la droite de Dieu dans le trône du Père. Ce psaume 110 est cité le plus souvent dans le Nouveau Testament. Le Seigneur l'a cité lui-même lorsqu'il parlait avec ceux qui l'opposaient. Dans les évangiles, on peut le lire. Et ça vaut la peine de relire tous les versets où ce psaume est cité. Et si nous voyons au début, le psaume 2 est cité, on verra aussi la prochaine fois, Dieu voulant, que le psaume 8 est cité au chapitre 2. On verra la prochaine fois, Dieu voulant, le psaume 8. Et là, nous voyons le Seigneur comme homme, et Dieu introduit un nouvel ordre de choses avec lui. Mais le psaume 110 est comme l'apogée. Et ça, c'est le psaume qui est cité le plus souvent, et surtout dans cet épître. Par rapport au fait que le Seigneur est le sacrificateur, le grand sacrificateur, mais aussi par rapport au fait qu'il est le grand roi. Verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs ?» Donc là, il revient à nouveau au fait que les anges sont des ministres. On a vu cela déjà, ils sont des ministres au verset 7. Et là, le mot, c'est vraiment un mot qui nous parle d'un office d'honneur. Donc un ministre, comme le premier ministre par exemple dans notre pays. Mais le deuxième mot qui est utilisé, le verbe servir au verset 14, c'est le même mot qu'on voit avec diacre. Donc ça, c'est un service d'humilité. Donc c'est beau de voir que ces anges, des esprits, des serviteurs éminents, ils ont ici un service d'humilité pour les croyants. J'ai dit tantôt au début, le premier argument les anges ont vu leur créateur dans la crèche, le bébé dans la crèche était plus élevé que eux. Et maintenant nous voyons que les anges sont aussi nos serviteurs. Parce que pourquoi? Je répète, lors de la création, c'est nous sommes au-dessous des anges. Mais par le fait que nous sommes maintenant des compagnons du Fils de Dieu, nous sommes associés au Fils de Dieu. C'est pour cela que les anges sont envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. C'est incroyable. À cause du lien avec le Seigneur, les anges sont devenus aussi nos serviteurs de la part de Dieu. C'est Dieu qui est en contrôle parce qu'il est dit envoyé. Donc c'est Dieu qui les envoie. C'est pas nous qui pouvons forcer Dieu ou les anges. Non, c'est Dieu qui les envoie. Vous avez un point. Que j'aimerais simplement mentionner, c'est le mot salut. Ce mot salut revient 7 fois dans cette épître. Et le mot salut a une signification importante, mais aussi différente. Ça dépend du contexte. Ici, le salut est encore futur. Donc il ne faut pas que vous soyez confus. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore le salut. Non. Par la grâce de Dieu, nous avons le salut de nos âmes. Mais le salut, comme c'est présenté ici dans l'Épître aux Hébreux, c'est encore futur, dans cet aspect où le Seigneur Jésus va régner, où tout le mal sera ôté, et tout sera sous son contrôle. Là, c'est encore un aspect futur. Mais dans le cours de cette épître, on verra plusieurs fois ce mot salut, donc on revient encore sur cette pensée-là. Mais peut-être, juste brièvement, nous sommes identifiés avec un Christ rejeté. Le Seigneur Jésus est rejeté. Et nous avons le salut parce que nous sommes identifiés avec lui. Et c'est exprimé dans le baptême. Nous avons le salut aussi parce que Dieu nous a acceptés dans le bien-aimé et rendus agréables dans lui. Et dans Éphésiens 2, nous avons le salut dans son plein sens. Mais nous avons aussi souvent cette pensée-là que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve sur nos chemins. Ça, c'est aussi un aspect du salut. Mais ce n'est pas le sens qui est utilisé ici. Ici, c'est donc un sens futur du salut. Et nous allons hériter ce salut dans cet aspect-là. Je réalise qu'il y a beaucoup de choses dans cette épître, dans ce chapitre qui sont dures, mais je voulais juste résumer encore brièvement ces 7 points que vous puisiez garder sans mémoire. 7 points pour montrer que le Seigneur Jésus est plus haut que les anges, son trône est éternel, plus élevé que tous les autres trônes, le deuxième point. Il est au-dessus de ses compagnons. Donc quel privilège pour nous de réaliser que nous sommes des compagnons du Fils de Dieu. Et là, je mentionne un point que j'ai oublié tantôt. Il n'est pas dit dans cette épître que nous sommes unis au Fils de Dieu. Nous sommes unis au Fils de l'homme. Ça, c'est Éphésiens. Mais nous sommes des associés ou des compagnons de Dieu. Parce que ici, c'est Dieu qui est présenté. Dieu est Dieu et nous sommes des créatures. Là, il y aura toujours une distinction. Et dans ce sens-là, on ne peut pas être unis à lui. Mais on est intimement associés à lui, qui est Dieu béni sur toutes choses. Donc ça, c'est un point important. Il est au-dessus de la première création. Nous avons vu le quatrième point. Il est au-dessus du temps. Il est au-dessus de ses ennemis, au-dessus des anges. Donc ça nous montre la grandeur du Seigneur Jésus. Et dans ce passage qu'on a lu ce soir, Paul suit l'ordre chronologique de la naissance du Seigneur Jésus, sa marche sur la terre, il voit le retour du Seigneur Jésus, il voit le règne millénaire, il voit même l'état éternel. Et nous voyons aussi une extension dans le sens de territoire. D'abord, c'est Israël, au verset 5. Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. C'est par rapport à Israël. Au verset 6 et 9, à 9, nous voyons tout le monde qui sera soumis à son autorité. Il va régner sur tout le monde. Mais à la fin du chapitre, verset 10 et 11, et 12, nous voyons qu'il va régner sur l'univers. Donc là aussi, un agrandissement. Comme Isaïe dit, il n'y a pas de fin à son règne. Ça grandit tout le temps. Et c'est aussi la pensée ici. Tu vois un point glorieux, puis là tu vois que comment il devient plus grand, plus grand, plus grand. Si vous voulez encore prendre ça en note, si vous voulez marquer le mot meilleur en lisant cette épître, vous allez trouver 12 fois. Je ne l'ai pas vérifié dans le texte français, mais il y a 12 fois ce même mot qu'on a vu au verset 4, plus excellent, ou souvent traduit par meilleur. Meilleure chose, une meilleure espérance, une meilleure alliance, un meilleur sacrifice, une meilleure possession, une meilleure patrie, une meilleure résurrection, quelque chose de meilleur pour nous, et le sang de Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, cette épître nous parle beaucoup de la beauté, de la grandeur, de la splendeur du Seigneur Jésus. Et avec qui qu'on le compare, il est toujours plus grand. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Dans l'Ancien Testament, on a des exemples de l'intervention des anges comme messagers. Très clairement.
Oui.
Est-ce qu'on aurait des exemples maintenant du service des anges pour les croyants? Est-ce qu'il y en aurait, par exemple, des versets qui appuieraient ou qui seraient à l'appui
oui.
de ce chapitre 4?
Oui. Est-ce que l'histoire de Corneille avec Pierre en acte 10 et 11 serait un exemple? Il se pense, Paul, lorsqu'il était sur le navire en eau claire, il parlait d'un ange que Dieu lui avait envoyé. Donc là, on a quelques exemples comment Dieu avait envoyé un ange. Et dans Hébreux 13, il réfère encore à la visite des anges. Mais probablement, il y a d'autres exemples, mais ça ne revient pas tout de suite. Mais d'un autre côté, on doit faire attention, et je l'ai indiqué déjà, mais je n'ai pas élaboré là-dessus. Aujourd'hui, on parle beaucoup des anges. C'est dangereux parce que c'est pas toujours dans ce sens-là. C'est souvent détaché de l'enseignement biblique qu'on parle des anges. Et là, ça devient dangereux parce qu'il y a aussi des anges déchus. Ce sont des démons. Puis souvent, c'est ça, où on parle des expériences, near-death experience, des expériences proche de la mort, mais on ne réalise pas que là, il y a des puissances diaboliques qui opèrent. Donc, même lorsqu'on parle des anges, on doit toujours faire sûr qu'on parle dans le sens biblique, comme on a vu ce soir, selon ta question.
On a dit par vous aussi cette image des anges, j'en ai pas pu l'entendre souvent comme des petits enfants.
Ce qui est absolument faux, évidemment. Parce qu'un ange pouvait détruire toute une armée de 185 hommes, soldats, un homme, en l'Ancien Testament. Donc, c'est pas un petit délire.
Il mentionne, il me semble, dans là-dessus aussi, que chacun a son âme.
Oui, les enfants, qui représentent, qui sont en même temps dans la présence de Dieu. mais l'idée de l'ange gardien n'est pas vraiment dans la Bible, mais Dieu, c'est pour ça que j'ai souligné tantôt la pensée que Dieu les envoie. Donc Dieu a donné des tâches aux anges par rapport aux enfants, surtout les enfants des croyants. Mais on ne va pas aller plus loin que l'Écriture. Si on a une pensée, mais ce n'est pas confirmé dans la parole, c'est mieux qu'on n'en parle pas. Colossiens 2, oui. Mais là, ça nous montre déjà qu'ils sont allés trop loin à ce moment-là.
On se rappelle que le Seigneur Jésus est servi par des anges.
Oui. Oui.
Pierre qui est délivré, qui est chaîné.
Oui, oui. Oui, ça c'est un autre point.
Il y a une chose qui me frappe, je ne comprends pas son but, mais c'est étonnant, nous avons vu la supériorité du Fils,
oui.
Sur tout, comme sur tout être et sur tout. Tout. Dans le chapitre 2, on va voir tout en ce moment. Nous voyons Jésus qui a dit un peu moins de raison à cause de son nom.
C'est ça.
C'est un grand truc.
C'est beau que tu le mentionnes parce qu'on verra beaucoup de contraires dans cette épître. Beaucoup de contraires. Mais on verra aussi tout le temps le lien avec lui. Si vous voulez garder sa mémoire, toute l'emphase est sur la personne du Seigneur. En même temps, il y a tout le temps des liens avec lui. Tout le temps. Mais ça, ce n'est pas l'emphase. C'est notre privilège quand même.